Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale, hein? Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Ah. Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
Monsieur le vicomte de Valmont, mon enfant, dont vous ne vous souvenez sans doute pas, encore qu'il soit d'une prestance charmante, n'ouvre jamais la bouche qu'il n'ait d'abord calculé tout le mal qu'il pourrait causer.
Et sa lune de miel à peine terminée, on verra Bastille en larmes, la risée de Paris.
Certes.
Oui. Amour et vengeance, vos joies préférées.
Je veux goûter le suprême bonheur de la voir trahir tout ce qui est le plus important à ses yeux. Vous comprenez cela, je le sais, car le mot trahison est de vos favoris.
Non, non. Cruauté. Quel mot a autant de noblesse que celui-là?
Monsieur, je vous en prie.
Je vous écrirai bientôt. Bien, chère Madame de Tourvel, si j'avais joui plus tôt, sans bouger, ai-je dit, de vos bons conseils, la tempête qui vient de m'assaillir aurait fait naître la trêve bénie qu'attend mon cœur. La table sur laquelle j'écris est mouillée par l'émotion que j'éprouve. Cependant, malgré les tourments du délire qui dévore mes sens et qui m'empêche de fermer l'œil, je vous assure que dans ce moment, je suis 100 fois plus heureux que vous. Nous finirons cette lettre plus tard.
J'ai dit à Danceny que vous seriez son confident et son conseiller. Essayez de durcir ses facultés. Le mot est-il juste? Comme bien des intellectuels, il est d'une extrême stupidité. Je devins très vite une virtuose de l'hypocrisie. Ce n'était pas le plaisir que je voulais atteindre, mais la connaissance. Je consultais d'austères moralistes pour acquérir le maintien, des philosophes pour apprendre à réfléchir, et des auteurs pour voir dans leurs romans jusqu'où je pouvais aller. Et tout cela, je l'ai distillé en un unique et merveilleux précepte, vaincre ou mourir. Pas d'autre choix.
La comtesse de Beauregard m'a offert de venir.
Eh bien, il vous faut repousser l'offre.
Mais cette chère comtesse m'a promis l'accès extensif de ses jardins. Il semble que son époux n'ait plus les doigts aussi verts que par le passé.
Mon Dieu, non. Mais je crois savoir que tous ses amis sont jardiniers.
Tiens donc.
Vous voulez votre revanche et je veux ma revanche. Il m'apparaît que vous n'avez pas d'autre choix.
La jeunesse a de miraculeuses facultés de récupération. Je miserai qu'elle se retrouvera bientôt en selle.
La honte est comme la douleur. On ne l'éprouve qu'une fois.
Elle a accepté mon amour. J'ai accepté son amitié. Mais nous savons l'un et l'autre combien la frontière est fragile entre ces deux concepts.
Les illusions sont bien sûr de par leur nature si belles.
Je n'ai plus d'illusions, elles ont coulé au fil de mes aventures.
Mais n'oublions pas que le regret est un composant essentiel du bonheur. La vanité et le bonheur sont incompatibles.
Que faites-vous? Que pouvez-vous faire chez une vieille tante dont tous les biens vous sont substitués? Partez sur le champ. J'ai besoin de vous. Il m'est venu une excellente idée et je veux bien vous en confier l'exécution. Ce peu de mots devrait suffire. Et trop honoré de mon choix, vous devriez venir avec empressement prendre mes ordres à genoux. Mais vous abusez de mes bontés, même depuis que vous n'en usez plus. Et dans l'alternative d'une haine éternelle ou d'une excessive indulgence, votre bonheur veut que ma bonté l'emporte. Je veux donc bien vous instruire de mes projets. Mais jurez-moi qu'en fidèle chevalier, vous ne courrez aucune aventure que vous n'ayez mis celle-ci à fin. Elle est digne d'un héros. Vous servirez l'amour et la vengeance. Ce sera enfin une rouerie de plus à mettre dans vos mémoires. Oui, dans vos mémoires. Car je veux qu'ils soient imprimés un jour et je me charge de les écrire. Mais laissons cela et revenons à ce qui m'occupe. Madame de Volanges marie sa fille. C'est encore un secret. Mais elle m'en a fait part hier. Et qui croyez-vous qu'elle ait choisi pour gendre? Le comte Gercourt. Qui m'aurait dit que je deviendrais la cousine de Gercourt? J'en suis dans une fureur. Eh bien, vous ne dominez pas encore? Oh, l'esprit lourd! Lui avez-vous donc pardonné l'aventure de l'intendante? Et moi, n'ai-je pas encore plus à me plaindre de lui, monstre que vous êtes? Mais je m'apaise, et l'espoir de me venger rassérène mon âme. Vous avez été ennuyé 100 fois, ainsi que moi, de l'importance que met Gercourt à la femme qu'il aura, et de la sotte présomption qui lui fait croire qu'il évitera le sort inévitable. Vous connaissez ses ridicules préventions sur les éducations cloîtrées, et son préjugé plus ridicule encore en faveur de la retenue des blondes. En effet, je gagerais que malgré les 60 000 livres de rente de la petite Volange, il n'aurait jamais fait ce mariage, si elle eût été brune, ou si elle n'eût pas été au couvent. Prouvons-lui donc qu'il n'est qu'un sot. Il le sera sans doute un jour. Ce n'est pas là qui m'embarrasse, mais le plaisant serait qu'il débutât par là. Comme nous nous amuserions le lendemain en l'entendant se vanter, car il se vantera. Et puis si une fois vous formez cette petite fille, il y aura bien du malheur si le Gercourt ne devient pas, comme un autre, la fable de Paris.
C'est lorsqu'elle apprend que son ancien amant Gercourt est sur le point d'épouser Cécile de Volanges que la marquise de Merteuil demande au vicomte de Valmont de s'allier à elle pour détruire ce même Gercourt. Si bien que cette première lettre que nous entendons, Catriona VII, n'est pas une lettre de séduction. Il ne s'agit pas de séduire, mais de détruire quelqu'un.
Il s'agit bien, en effet, de détruire quelqu'un, mais en passant par un projet de séduction. C'est là toute la finesse, je crois, du projet libertin qu'échafaude la marquise de Merteuil. Elle veut donc se venger de Gercourt. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un de ses amants qui l'a quitté autrefois. Et il l'a quitté en faisant partir aussi une femme qui était l'amante à l'époque de Valmont. Donc elle se dit, ils ont tous les deux des raisons de se venger de Gercourt. Et donc le projet de se venger de Gercourt passe par la corruption d'une innocente. Et cette innocente, c'est la petite Cécile dont il a été question. Cette blonde Cécile qui sort de son couvent, qui est extrêmement naïve, on l'apprendra au cours du texte, qui a écrit la première lettre, puisque l'extrait que nous venons d'entendre, c'est la lettre 2. La première lettre est une lettre très naïve de Cécile, où elle dit son bonheur d'être sortie du couvent, de s'attendre à être mariée bientôt. Elle explique qu'elle ne sait pas très bien ce qui se passe. Un homme a été annoncé. Elle a pensé que c'était peut-être l'homme qu'elle allait devoir épouser. Et non, c'était le cordonnier venu mesurer son pied pour lui faire des chaussures de dame, enfin de demoiselle, puisqu'elle fait son entrée dans le monde. Et donc cette deuxième lettre, tout à fait machiavélique, arrive derrière la première très naïve. Et cette deuxième lettre, elle met en place toute une série de thèmes qui seront importants dans le roman. C'est-à-dire l'idée que ce projet de séduction a été manigancé par la marquise. Et on découvrira en cours de route que même si la marquise et le vicomte sont alliés et avancent ensemble, c'est tout de même la marquise qui est la véritable intrigante. Et quelque part, celui qui fait les efforts, qui enfin en quelque sorte celui qui accomplit les actions, c'est Valmont. Valmont va être le séducteur en action et Merteuil va être en quelque sorte l'intellectuel, l'esprit, celle qui tire les ficelles.
Mais finalement, l'un et l'autre sont eux-mêmes prisonniers de leur désir de plaire, puisque j'ai dit que le but était de détruire et pas de séduire. Vous avez justement précisé qu'il s'agissait de détruire en séduisant. Ce qu'ils présentent là comme un projet, disons, presque amusant, hein, finalement, qui vient les divertir, est beaucoup plus profond et inquiétant que cela, y compris pour eux-mêmes. Ils n'ont pas vraiment le choix. Ils n'existent que dans cet apparaître et cette entreprise de séduction générale.
Alors, vous avez tout à fait raison. Et lorsque Madame de Merteuil évoque dans cette lettre 2 les mémoires de Valmont qu'elle compte écrire, elle montre l'importance de la réputation. Cette réputation aussi, il en est question à propos de Gercourt. La réputation de Gercourt va être ruinée parce qu'on va apprendre que la petite qu'il épouse, dont il pense qu'elle a eu une éducation cloîtrée, qu'elle est blonde et donc pure, etc., va se révéler, au contraire, tout à fait pervertie au moment où il la traîne devant l'hôtel. En tout cas, c'est ce que pense Madame de Merteuil quand elle échafaude ce plan. Donc vous avez tout à fait raison. La question de la réputation est essentielle et les personnages de Libertin jouent pour la galerie. Mmh. Ils jouent pour la galerie d'une manière qui est très différente selon les sexes, puisque Madame de Merteuil doit jouer les confidentes de Madame de Volanges, les veuves respectables, etc., alors qu'elle a une vie tout à fait dissolue, mais il ne faut pas le savoir. Et au contraire, Valmont joue sur sa réputation d'homme qui accumule les liaisons, et ça va être une des manières pour lui de conquérir la deuxième personne qu'il va séduire dans le roman, qui est une femme, une jeune femme mariée, la présidente de Tourvel, tout à fait respectable. Et il va la séduire en partie parce qu'il va lui laisser croire qu'elle est en train de l'aider à se réformer. Et comme elle est tout à fait pure dans ses intentions, elle se dit que voilà une belle œuvre, en quelque sorte. Elle va s'engager pour essayer de réformer le libertin et elle va tomber dans son piège de cette façon-là.
Les liaisons dangereuses sont vraiment la quintessence du roman libertin, roman épistolaire en l'occurrence, publié en 1782.
Cette complaisance de ma part est le prix de celle qu'elle vient d'avoir de me servir de pupitre pour écrire à ma belle dévote, à qui j'ai trouvé plaisant d'envoyer une lettre écrite du lit et presque dans les bras d'une fille, interrompue même pour une infidélité complète, et dans laquelle je lui rendis un compte exact de ma situation et de ma conduite. Émilie, qui a lu l'épître, en a ri comme une folle, et j'espère que vous en rirez aussi. Comme il faut que ma lettre soit timbrée de Paris, je vous l'envoie. Je la laisse ouverte. Vous voudrez bien la lire, la cacheter et la faire remettre à la poste. Surtout, n'allez pas vous servir de votre cachet, ni même d'aucun emblème amoureux. Une tête seulement. Adieu, ma belle amie. C'est après une nuit orageuse et pendant laquelle je n'ai pas fermé l'œil. C'est après avoir été sans cesse ou dans l'agitation d'une ardeur dévorante ou dans l'entier anéantissement de toutes les facultés de mon âme que je viens chercher auprès de vous, madame, un calme dont j'ai besoin et dont pourtant je n'espère pas pouvoir jouir encore. En effet, la situation où je suis en vous écrivant me fait connaître plus que jamais la puissance irrésistible de l'amour. J'ai peine à conserver assez d'empire sur moi pour mettre quelque ordre dans mes idées, et déjà je prévois que je ne finirai pas cette lettre sans être obligé de l'interrompre. Quoi ? Ne puis-je donc espérer que vous partagerez quelque jour le trouble que j'éprouve en ce moment ? J'ose croire cependant que, si vous le connaissiez bien, vous n'y seriez pas entièrement insensible. Croyez-moi, madame, la froide tranquillité, le sommeil de l'âme, image de la mort ne mènent point au bonheur. Les passions actives peuvent seules y conduire. Et malgré les tourments que vous me faites éprouver, je crois pouvoir assurer sans crainte que, dans ce moment même, je suis plus heureux que vous. En vain m'accablez-vous de vos rigueurs désolantes, elles ne m'empêchent point de m'abandonner entièrement à l'amour, et d'oublier, dans le délire qu'il me cause, le désespoir auquel vous me livrez. C'est ainsi que je veux me venger de l'exil auquel vous me condamnez. Jamais je n'eus tant de plaisir en vous écrivant, jamais je ne ressentis dans cette occupation une émotion si douce et cependant si vive. Tout semble augmenter mes transports. L'air que je respire est brûlant de volupté. La table même sur laquelle je vous écris, consacrée pour la première fois à cet usage, devient pour moi l'autel sacré de l'amour. Combien elle va s'embellir à mes yeux. J'aurai tracé sur elle le serment de vous aimer toujours. Pardonnez, je vous en supplie, le délire que j'éprouve. Je devrais peut-être m'abandonner moins à des transports que vous ne partagez pas. Il faut vous quitter un moment pour dissiper une ivresse qui s'augmente à chaque instant et qui devient plus forte que moi. Je reviens à vous, madame, et sans doute j'y reviens toujours avec le même empressement. Cependant, le sentiment du bonheur a fui loin de moi. Il a fait place à celui des privations cruelles. À quoi me sert-il de vous parler de mes sentiments si je cherche en vain les moyens de vous en convaincre? Après tant d'efforts réitérés, la confiance et la force m'abandonnent à la fois. Si je me retrace encore les plaisirs de l'amour, c'est pour sentir plus vivement le regret d'en être privé. Je ne me vois de ressources que dans votre indulgence, et je sens trop dans ce moment combien j'en ai besoin pour espérer de l'obtenir. Cependant, jamais mon amour ne fut plus respectueux. Jamais il ne dut moins vous offenser. Il est tel, j'ose le dire, que la vertu la plus sévère ne devrait pas le craindre. Mais je crains moi-même de vous entretenir plus longtemps de la peine que j'éprouve. Assuré que l'objet qui la cause ne la partage pas, il ne faut pas au moins abuser de ses bontés, et ce serait le faire que d'employer plus de temps à vous retracer cette douloureuse image. Je ne prends plus que celui de vous supplier de me répondre et de ne jamais douter de la vérité de mes sentiments.
Thank you.
Madame de Merteuil raconte comment, dans un monde très inégalitaire, elle a pu se créer un personnage, comment elle est devenue une nouvelle Dalila, comme elle se qualifie elle-même, hein, donc tenant le secret des uns et des autres, comment elle a expérimenté sa capacité de réagir de différentes manières dans des situations très variées pour parfaire son personnage, en quelque sorte. Elle dit qu'elle s'est créée elle-même. Hein, elle est une espèce de production de la divinité créatrice qu'elle serait. Elle s'est auto-engendrée, en quelque sorte, en tant que personnage, d'après cette lettre. Une lettre magnifique et terrible à la fois. Et ça va épouvanter un certain nombre de lecteurs qui vont se dire « Mais on n'a jamais vu une femme comme cela. » Et Madame Riccoboni, par exemple, qui est une amie de famille, Della Clos, qui est une grande romancière de l'époque, Madame Riccoboni trouve que ce personnage est démesuré, ne peut pas exister, en quelque sorte.
Entrée dans le monde dans le temps où, fille encore, j'étais vouée par état au silence et à l'inaction, j'ai su en profiter pour observer et réfléchir. Tandis qu'on me croyait étourdie ou distraite, écoutant peu à la vérité les discours qu'on s'empressait de me tenir, je recueillais avec soin ce qu'on cherchait à me cacher. Cette utile curiosité, en servant à m'instruire, m'apprit encore à dissimuler. Forcée souvent de cacher les objets de mon attention aux yeux qui m'entouraient, j'essayais de guider les miens à mon gré, et j'obtins dès lors de prendre à volonté ce regard distrait que depuis vous avez loué si souvent. Encouragée par ce premier succès, je tâchais de régler de même les divers mouvements de ma figure. Ressentais-je quelque chagrin, je m'étudiais à prendre l'air de la sécurité, même celui de la joie. J'ai porté le zèle jusqu'à me causer des douleurs volontaires pour chercher pendant ce temps l'expression du plaisir. Je me suis travaillée avec le même soin et plus de peine pour réprimer les symptômes d'une joie inattendue. C'est ainsi que j'ai su prendre sur ma physionomie cette puissance dont je vous ai vu quelquefois si étonnée. J'étais bien jeune encore et presque sans intérêt, mais je n'avais à moi que ma pensée, et je m'indignais qu'on pût me la ravir ou me la surprendre contre ma volonté. Muni de ces premières armes, j'en essayais l'usage. Non contente de ne plus me laisser pénétrer, je m'amusais à me montrer sous des formes différentes. Sûre de mes gestes, j'observais mes discours, je réglais les uns et les autres suivant les circonstances, ou même seulement suivant mes fantaisies. Dès ce moment, ma façon de penser fut pour moi seule, et je ne montrais plus que celle qui m'était utile de laisser voir. Ce travail sur moi-même avait fixé mon attention sur l'expression des figures et le caractère des physionomies, et j'y gagnais ce coup d'œil pénétrant auquel l'expérience m'a pourtant appris à ne pas me fier entièrement, mais qui, en tout, m'a rarement trompée. À la fin de cet autoportrait, présent dans la lettre 81 des Liaisons dangereuses, on trouve cette phrase finalement, elle dit ceci: « Je n'avais pas 15 ans et je me trouvais encore qu'aux premiers éléments de la science que je voulais acquérir. » Ici, le terme est lancé, il s'agit bien de science de la séduction de la domination.
What could persuade the most beautiful women of their time to sacrifice their faith?
Did you like what you did with Monsieur de Valmont?
You never stop, do you?
Betray their families.
When does your husband come back?
Doesn't matter anymore.
And surrender to the temptations of uncontrollable desire. There is but one possibility. Ren Productions presents the new film from the Academy Award-winning director of Amadeus, Milos Forman's Valmont. A tapestry of color and light.
We should always be friends.
More than that.
Lovers?
seduction, and mystery.
You know, I keep thinking about one thing.
And I thought you weren't interested.
Forbidden passion and beguiling deceit.
Monsieur de Vermont, you will leave this house immediately.
Irresistible danger and uncertain fate. A story as unpredictable as love itself. Milos Forman's Valmont.
Ce film a été projeté hier à Cannes Classique dans une copie restaurée magnifique que Pathé a fait restaurer dans des studios de restauration à Bologne. Un peu des pointures dans le domaine pour refaire du beau son et des belles images. Et alors, je suis très très contente de parler de ce film, car effectivement, il a été important dans ma vie de cinéphile parce qu'il m'a appris à ne pas crier avec les loups. Ou en tout cas, à me faire une opinion personnelle sur les films. Comme sur les hommes d'ailleurs, vous verrez. Quand Valmont, donc libre adaptation des Liaisons dangereuses par le grand scénariste Jean-Claude Carrière, hein, tout de même, sort en salle le 6 décembre 1989, il arrive un peu tard. Même trop tard. Le 22 mars est déjà sortie la version de Stephen Frears avec Glenn Close, John Malkovich et tout le monde est tombé à genoux devant cette adaptation théâtrale et cruelle, plus fidèle, c'est vrai, à Choderlos de Laclos. Ou Choderlos de Laclos. On a eu une discussion il y a deux secondes pour se dire
bon,
est-ce qu'on fait che, est-ce qu'on fait que bon. Alors je ne sais pas comment ça se fait. Est-ce que je devais avoir l'appendicite? Parce que normalement, j'allais, à cette époque, dans les années 80, tout voir en salle. Et je loupe cette adaptation-là. Alors rappelons quand même, pour nos auditeurs, que Les Liaisons dangereuses, c'est l'histoire de la redoutable, vous l'avez entendu là, cette voix, la redoutable Madame de Merteuil, vexée dans son orgueil que son amant du moment la quitte pour épouser une jouvencelle, Cécile de Volanges, demande à son ami, enfin... dans ce milieu-là, les amitiés, mais à son ami et irrésistible Valmont de déflorer la pucelle avant les noces. Comme ça, le mari sera bien embêté. Sauf que Valmont, il a quand même d'autres fesses à fouetter. Il tient à coucher dans son lit la pure Madame de Tourvel, qui n'envisage, elle, pas une seconde, d'être infidèle à son mari. Alors donc, je vous dis, je loupe la version de Stephen Frears. Du coup, quand la version de Milos Forman sort en salle, là, je me jette dessus et je fonds, comme vous.
À l'époque.
Je fonds littéralement devant la mise en scène alerte, la manière de Milos Forman de filmer les rapports amoureux comme un ballet et surtout...
Il y a un merveilleux ballet d'ailleurs dans le film.
Dans le film, effectivement. Là, un vrai ballet. Et surtout, devant Colin Firth, il était tout débutant à l'époque, mon Dieu, Colin, qui fait de Valmont un séducteur ouvert au romantisme et subtilement tragique. J'ai 20 ans, je le répète, pour le plaisir, j'ai 20 ans à l'époque, et les marivaudages entre cette garce de Merteuil et cet homme qu'elle utilise pour se venger me semblent à l'époque le comble de la cruauté. Elle rit, elle est sadique, elle est décoiffée, elle est sensuelle, et lui, il sourit. Alors, découverte quand même du sourire de Colin Firth, qui depuis est devenu pratiquement une légende, il sourit, un peu triste que les femmes, même pour lui, finalement, restent un mystère. Alors, quand la cassette vidéo... Mon Dieu, décidément. Quand la cassette vidéo, je fais bien mon âge, du film de Frears sort après, enfin, bien après. À l'époque, hein, vous savez, il fallait être patient, la chronologie des médias était lente comme tout, mais c'était pas plus mal, parce qu'on attendait un film... avec la même tension qu'un premier rendez-vous amoureux. Donc quand la VHS sort, je regarde le Frears et je réalise que je préfère le Milos Forman. Pour sa grâce...
Bienvenue au club.
Merci. Pour sa grâce toute mozartienne et surtout son choix de mettre en vedette, le titre est parlant, un homme qui change plutôt qu'une femme qui campe sur ses positions et ses méchantes positions. Donc Valmont, Ali, m'a donné deux belles leçons. Ne pas préférer forcément la version d'un film que tout le monde préfère et toujours croire que les hommes sont plus romantiques qu'ils veulent bien le montrer.
Il est l'heure de parler. Pour n'être pas les